Première édition d'Afrique Matin, nous sommes ensemble pour une demi-heure avec le journal pour commencer.
Simon Bourtembourg.
Et à la une de cette édition, la situation catastrophique à El Fasher. C'est le cri du cœur d'un groupe de militants soudanais. La banlieue de la capitale du Darfour Nord a été hier la cible d'une nouvelle attaque meurtrière. La colère gronde à Kinshasa. En visite auprès des sinistrés, Félix Tshisekedi critiqué après les violentes inondations qui ont fait au moins 30 morts ces derniers jours. Nous le verrons, le gouverneur de la capitale congolaise est également pointé du doigt. Dans cette édition, nous reviendrons aussi sur le lancement des 31e commémorations du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. À la une également, un mail laconique. C'est ainsi que les Sud-Soudanais se voient retirer leur visa américain. Ils ne peuvent plus donc entrer aux États-Unis. Nous vous expliquerons ce décret inédit sorti du chapeau de Donald Trump. Et puis du football, retour de la Ligue des Champions ce soir. Deux premières demi-finales au programme Arsenal-Real Madrid et Bayern Munich-Inter Milan. Au Soudan, cette nouvelle attaque sanglante dans le Darfour Nord. Hier, le bombardement d'un marché de la ville de Tora a fait plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. Plusieurs organisations de la société civile accusent l'armée soudanaise d'avoir visé les populations civiles dans cette cité au nord d'El Fasher. La capitale du Darfour du Nord, à l'ouest du Soudan donc, qui est assiégée depuis plusieurs mois par les paramilitaires du général Emeti. C'est là, Ouda Ibrahim, que les combats sont les plus violents ces dernières semaines.
L'armée soudanaise se concentre désormais sur la bataille d'El Fasher. Elle affirme qu'elle réalise des avancées sur les différents axes du front, et spécialement autour et à l'intérieur de la ville d'El Fasher, où la situation demeure, selon elle, sous contrôle. Hier, des rassemblements des FSR autour de la ville ont été visés, bilan 9 morts et 5 véhicules pulvérisés côté paramilitaire. Se basant sur des renseignements, un convoi des FSR qui progressait entre Niala et El Fasher a également été visé par des frappes aériennes. Il y aurait, selon l'armée, des dizaines de morts. Ceux qui ont pu s'échapper ont fui vers le sud du Darfour, laissant derrière eux leurs morts et blessés, indique le communiqué de l'armée. En représailles, les FSR ont violemment visé des habitations à l'ouest de la ville d'El Fasher et Abu Shouk. Une dizaine de victimes civiles sont tombées, dont parmi eux 4 enfants, selon le réseau Médecins du Soudan. Le porte-parole du gouvernement soudanais a appelé l'ONU à intervenir. Des avions et des véhicules doivent œuvrer sous l'ordre de l'ONU pour sauver la vie des habitants, a-t-il précisé.
Le gouvernement soudanais qui proteste par ailleurs contre son exclusion d'une conférence sur la guerre au Soudan prévue à Londres. La rencontre co-organisée avec le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Union européenne est donc prévue le 15 avril prochain, le jour qui marquera les 2 ans de la guerre. Une conférence sur le Soudan sans inviter le gouvernement soudanais regrette Khartoum. En République démocratique du Congo, ils sont près de 600 à avoir passé la nuit sur un matelas posé à même le sol au stade Tata Raphaël, transformé en centre d'hébergement d'urgence. Les violentes inondations de ces derniers jours ont fait au moins 30 morts d'après le dernier bilan, toujours provisoire. Et passé l'urgence, l'heure est désormais à la colère dans la capitale congolaise. Dans un communiqué, des acteurs de la société civile dénoncent une gestion incompétente et hasardeuse des pluies et des inondations qui font régulièrement des victimes à Kinshasa. Florimon Mouteba est membre de l'organisation de la dépense publique. Il réclame des enquêtes et pointe la responsabilité du gouverneur de la ville.
Le premier, c'est d'abord les conséquences de cet éboulement et la mort de plus d'une trentaine de Quinois. Ça, c'est la, ça il ne peut pas rester à son poste. Ce n'est pas possible. 30 morts. Et encore, c'est jusque-là, c'est ce qu'on a compté. Mais après ça, on va voir jusqu'où on va. Mais au-delà de ces 30 morts, c'est toujours le manque de prévision. On ne prévoit rien et puis on subit les conséquences. Et ça, c'est pas des dirigeants. Est-ce qu'on ne pouvait pas prévoir? Vous savez, avec les caniveaux qui sont aujourd'hui à Kinshasa, partout bouchés, quand il y a une grosse pluie comme ça, ça débouche sur quoi? Ouais. Donc c'est ce manque de gestion, de management urbain correct, et qui fait que nous avons les conséquences aujourd'hui. prévoir, organiser, commander, contrôler. C'est ça le travail qu'un dirigeant doit faire.
Le témoignage de Florimond Mouteba au micro RFI de Patient Ligodi. Une rencontre symbolique au Kenya alors que la justice patine. Le secrétaire d'État à la Défense britannique était hier à Nairobi pour échanger avec la famille d'Agnès Wanjiru. Cette jeune femme de 21 ans avait été retrouvée morte en 2012 dans la fosse septique d'un hôtel dans le centre du pays. À la veille de sa mort, Agnès Wanjiru avait été aperçue en compagnie d'un soldat britannique de la PATOUK, l'unité de formation de l'armée britannique au Kenya. Cela fait désormais 13 ans que la famille d'Agnès Wanjiru demande justice, mais l'affaire est au point mort. Gaëlle Lalex.
C'est la première fois qu'un officiel britannique aussi haut placé rencontre les proches d'Agnès Wanjiru. Dans un communiqué, le secrétaire d'État à la Défense a salué leur détermination dans leur quête de justice. Esther Njoki, la nièce d'Agnès Wanjiru.
On est reconnaissant de cette rencontre, mais elle intervient après des années d'inaction. Aucune charge n'a été retenue contre le suspect. Pourtant, de plus en plus de témoins l'ont identifié comme le soldat qui a tué Agnès. Malgré ça, rien n'a été fait. Le ministre nous a assuré qu'il continuerait à pousser le dossier jusqu'à ce que nous obtenions justice et des conclusions.
Depuis que la plainte a été déposée en 2019, l'affaire du meurtre d'Agnès Wanjiru ne progresse pas. La défense de sa famille accuse les autorités kényanes et britanniques de dissimulation. L'enquête interne menée par la Batouk, par exemple, ne lui a jamais été transmise. Maître Mbiyu Kamau demande des avancées concrètes.
On veut voir des actes posés. Depuis longtemps, on demande à voir les procès-verbaux d'audition des témoins. On veut les noms de tous les soldats qui dormaient dans cet hôtel la nuit où Agnès a été tuée. On aimerait aussi ceux de leurs supérieurs qui les ont autorisés à quitter le Kenya après les faits. Ces noms doivent être rendus publics.
Dans un communiqué publié hier, le bureau du procureur général du Kenya a annoncé la nomination d'une équipe de magistrats pour revoir l'enquête menée par la police. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
Leur visa est tout simplement annulé. Les ressortissants sud-soudanais ne sont plus les bienvenus aux États-Unis. La mesure est inédite et justifiée par Washington qui accuse Juba de ne pas respecter le retour de ses citoyens expulsés. Alors, dès hier, certains ont reçu un email laconique leur intimant de ne pas essayer de rentrer aux États-Unis. C'est notamment le cas d'une ressortissante sud-soudanaise avec qui Florence Mietto a échangé.
Ils ont envoyé un email au langage rude, pas du tout aimable.
Voilà comment Florence, fonctionnaire sud-soudanaise de 27 ans, habituée des séjours aux États-Unis, a appris que son visa étudiant, encore valide un an, était révoqué. Elle avait prévu de se rendre à Washington très prochainement pour entamer un master.
Je ne vais donc pas partir étudier. Cela me fait vraiment de la peine parce que pour moi, mais aussi pour les très nombreux jeunes sud-soudanais dont les études et donc le futur vont pâtir de cette décision. C'est vraiment très regrettable.
Un homme identifié par Washington comme un sud-soudanais du nom de Nimeri Garang a été expulsé vers Juba ce week-end. Mais à son arrivée, il a déclaré face aux autorités sud-soudanaises s'appeler Makula Kintu et être congolais. Il a donc été refoulé. Apu Kayuel Mayenne, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Le gouvernement accueille tous ses citoyens, qu'ils reviennent de façon volontaire ou qu'ils soient expulsés. Le gouvernement regrette profondément qu'en dépit de cette historique de coopération et de partenariat, le Soudan du Sud fait maintenant face à une vaste révocation des visas sur la base d'un incident isolé.
Côté américain, le ton reste ferme. Le secrétariat d'État explique que l'ambassade sud-soudanaise à Washington a certifié la nationalité de cet homme. Il sera prochainement à nouveau expulsé. Les États-Unis intiment à Juba de ne pas aggraver davantage la situation. Florence Mietto, Juba, RFI.
Le premier de 100 jours d'hommage. Hier, le Rwanda lançait les 31e commémorations du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Il y a 31 ans, entre avril et juin, des massacres étaient commis partout dans le pays, visant donc la communauté Tutsi, mais également des Hutus modérés. Au moins 800 000 personnes ont été tuées selon les Nations Unies. Et cette année, les commémorations se tiennent dans un contexte de graves tensions régionales liées à l'est de la RDC. C'est un contexte évoqué par le président dans son discours. Reportage de Lucie Mouillot.
Une flamme en souvenir des victimes allumée au mémorial de Gisozi pour marquer le lancement des commémorations. Un passé sombre lié au présent cruel, affirme le président Paul Kagame. Ce qui ne nous a pas tués il y a 31 ans nous a rendus plus forts, affirme le chef d'État dans son discours.
Quand dans les témoignages, les gens disent que ce qui s'est passé ici n'arrivera plus jamais, ce n'est pas parce que les responsables de ce passé sombre ne réessayeront pas ou ne sont pas en train de réessayer maintenant. Cela n'arrivera plus jamais parce qu'il y aura des gens pour se lever et pour se battre.
Se battre notamment contre ceux qui imposent des sanctions au Rwanda pour son rôle dans le conflit à l'est de la RDC. Qu'ils aillent en enfer, leur répond le chef d'État. Après la cérémonie officielle, plus de 2000 jeunes ont entamé une marche du souvenir dans la ville de Kigali, un moment symbolique pour Nathaniel Mugisha.
Nous savons que pour avancer, nous devons savoir ce qui s'est passé, comprendre d'où vient le pays et vers où il se dirige. Il est donc essentiel en tant que jeune d'être présent, d'apprendre l'histoire de notre pays et de mieux le connaître.
Une marche suivie par la veillée nocturne dans le stade BK Arena, illuminée par les bougies portées par tous les participants en hommage aux disparus du génocide. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Réformer la Cour suprême tchadienne, voilà les revendications d'une délégation d'avocats qu'a rencontré hier après-midi le ministre de la Justice et le président de la Cour suprême. Après 2 semaines de grève, ces hommes de loi accusent toujours la plus haute juridiction du pays d'être devenue une zone de non-droit. Les décisions y seraient rendues, je cite, « en dehors de toute règle de procédure et à la tête du client ». Esdras Ndikoumana revient pour nous sur l'origine de cette crise.
La goutte qui a fait déborder le vase selon le bâtonnier d'Ndjamena, c'est l'affaire de la sextape qui avait défrayé la chronique dans la ville d'Abéché il y a 1 année. 4 parmi les prévenus avaient ensuite été condamnés de 1 à 3 ans de prison en première instance et en appel. Aucune des parties n'ayant été satisfaite par l'issue de ce procès, toutes vont alors se pourvoir en cassation. Mais quelle ne fut la surprise des avocats des parties civiles de constater que la Cour suprême avait tranché l'affaire avant même d'avoir le dossier entre ses mains, assure Maître Gérandi Laguerre.
Ce qui devrait se faire, c'est que la Cour suprême attend que la Cour d'appel lui transfère le dossier. Mais dans le cas d'espèce, non seulement le dossier est encore à la Cour d'appel, même jusqu'à aujourd'hui, mais il y a déjà une décision de la Cour suprême qui est rendue. En violation totale des dispositions qui régissent le fonctionnement même de la Cour suprême, comment une juridiction peut rendre une décision? Sur la base de quoi?
Et les avocats n'étaient pas encore au bout de toute leur surprise, toujours selon le bâtonnier.
À l'Assemblée générale, beaucoup de cas ont été révélés. On a demandé aux avocats de nous envoyer tous les cas qu'ils ont subis ou leurs clients ont subis. On a recensé plus de 20 cas, du moins pour ce qu'on a reçu. C'est des situations incroyables.
Après 2 semaines de grève, une délégation d'avocats, une séance de travail avec le ministre de la Justice et le président de la Cour suprême du Tchad, qui leur a fait des propositions de réforme, notamment sur le fonctionnement de la plus haute juridiction du pays. Nous allons les soumettre à l'Assemblée générale qui va décider de la suite à donner à notre mouvement, a annoncé Maître Gérandi Laguerre.
Et en Côte d'Ivoire, ce sont les enseignants du secteur public qui sont en grève. Une mobilisation dans les écoles primaires et secondaires lancée par 2 intersyndicales qui réclament notamment la revalorisation des primes trimestrielles. Un mot de football à présent, coup d'envoi ce mardi des quarts de finale de la Ligue des Champions. En attendant le match du Paris Saint-Germain, demain face à Aston Villa, on suivra ce soir Arsenal, Real Madrid et Bayern Munich, Inter Milan. 2 affiches aux allures de finale qui paraissent équilibrées, mais pas pour le consultant de Radio Foot International, Naïm Moniol. Pour lui, 2 favoris se dégagent.
Moi, je pense que le Bayern se détache d'abord parce qu'il a un léger matelas en championnat que n'a pas l'Inter Milan. Et puis surtout parce que le Bayern Munich a un pouvoir offensif de très très haut niveau avec un Harry Kane qui marche sur l'eau, là où l'Inter est peut-être plus fort défensivement qu'offensivement. Il y a quand même quelque chose en plus de très gênant avec l'Inter, c'est que c'est une équipe qui ne gagne quasiment aucune confrontation directe. Ni en championnat, ni en Ligue des Champions. Donc je pense que le Bayern a un léger avantage là-dessus.
Arsenal-Real.
Je pense que le Real a un avantage parce que Arsenal est décimé sur toutes ses lignes. Mikel Arteta va être contraint de faire jouer des joueurs peu expérimentés, jeunes. Je regardais l'attaque, Merinos, Martinelli, Trossard, Saka qui revient de blessure. Les 4 réunis, ils ont moins marqué à 4 que Mbappé tout seul cette saison. Donc je pense que le Real a évidemment un avantage d'expérience, mais surtout une puissance offensive de bien meilleure qualité. Et que je pense que le Real va tirer son épingle du jeu.
Naïm Moniol au micro d'Éric Mamrut. Et la Ligue des Champions et toute l'actualité sportive, on en reparle dans un peu moins d'une heure avec le journal des sports d'Antoine Grenier.
Afrique Matin sur RFI.
Pour l'heure, il est 4h44 en temps universel, la deuxième partie de cette édition d'Afrique Matin. Nous sommes au Congo-Brazzaville pour la suite de notre série consacrée aux moyens de transport privilégiés du continent. Alors avez-vous déjà monté à bord d'un tuk-tuk? Nous le verrons, ces tricycles sont décriés par beaucoup qui les trouvent dangereux. À suivre également l'actualité des matières premières et les diamants indiens ciblés par de nouvelles taxes douanières américaines. Nous serons aussi au Bénin, le leader africain de la production du coton, et puis nous appellerons nos confrères d'Outre-mer la première.
Pointe Noire,
93.2 FM.
La suite donc ce matin de notre série consacrée à la lutte impitoyable entre les moyens de transport privilégiés dans trois grandes villes du continent. Après être allé hier à Conakry en Guinée, nous allons ce matin à Kayi dans le sud du Congo-Brazzaville. La quatrième ville du pays est connue pour sa production sucrière, mais depuis quelques années, elle est aussi devenue un fief des tuk-tuk. Leur nombre a explosé, mais ce moyen de transport et cette déclinaison moderne du pouce-pouce ne fait pas l'unanimité. Un reportage de notre correspondant Loïcia Martial.
Cela fait quelques 4 années que les mototaxis de couleur jaune ont envahi les rues de Nkayi. Sibel Ndamba est très vite devenu chauffeur de ce nouveau mode de transport. Il témoigne de son succès.
Bon, la moto là, son vrai nom de confection, c'est le tuk-tuk. Mais vulgairement, ici en Kayo, on appelle ça par wewa. Quand ça a commencé, ça a aisé la population, quoi. La population avait commencé de se sentir un peu bien parce que il n'y avait pas un système de bus. Dès que ça a commencé, du coup, et les gens se sont sentis à l'aise parce qu'il fallait donner 150 pour se déplacer.
Il faut cependant travailler dur pour payer le propriétaire du tuk-tuk, démarrer tôt le matin et finir tard dans la soirée.
Les patrons ont tendance de demander 10 000 par jour. Comme nous sommes dans un pays où le taux de chômage est tellement très élevé, donc on est obligé de faire avec le moyen de bord.
Ces tuk-tuk importés d'Asie sont l'unique moyen emprunté par Carmel Loubac à la fois, agent du chemin de fer Congo-Océan, entre son domicile et son lieu de travail.
Quand je suis à l'intérieur du moyen, je me sens à l'aise parce que je libère premièrement mon esprit pour que je puisse arriver là où je pars. Oui, ça me permet de venir aussi au boulot pour arriver aussi à temps.
Mais ils sont loin de plaire à Jean-Claude Mpaka qui déplore surtout des cas d'accident.
Mais ce qui embêterait les gens parfois, ceux qui sont en train de circuler dans les rues, c'est que ces gens-là ne suivent pas correctement bien leur conduite parce que c'est la pagaille pour moi. C'est la pagaille dans ce sens que ils ne veulent pas y respecter les passants qui sont en train de marcher sur le goudron. Il y a parfois des accidents qui se passent.
Quant à Luc Mbetani, chauffeur de taxi-voiture, il estime que ces tuk-tuk représentent une vraie concurrence.
Allez, oui, voilà, ça nous dérange beaucoup. Là, pour avoir les recettes, l'argent, c'est pas facile pour avoir encore l'argent. Et il prend tout, il fait son, il fait aussi taxi, et il charge même les ciments, les bois, tout. Donc nous, pour avoir encore les courses, c'est difficile.
Selon différents observateurs, Nkayi dispose de près de 700 tuk-tuk pour une population estimée à 80 000 habitants. Loïcia Martial, de retour de Nkayi, RFI.
Un reportage que vous pouvez réécouter sur notre site www.rfi.fr.
RFI, toute l'actualité, Simon Bourtembourg.
Un point sur l'actualité internationale de ce mardi 8 avril 2025. Et à la une, les bourses asiatiques qui ouvrent ce matin en ordre dispersé alors que le monde continue de réagir aux droits de douane décidés par le président américain. Ainsi, les places de Tokyo et Hong Kong semblent rebondir avec respectivement plus 6 et plus 1,66%. Des droits de douane qui ne connaîtront pas de pause, assure Donald Trump alors que Pékin hausse le ton. Les États-Unis assurent être en discussion directe avec l'Iran sur le programme nucléaire, annonce surprise de Donald Trump en pleine réception à la Maison-Blanche du Premier ministre israélien. Le dirigeant républicain explique que des discussions ont déjà commencé avec Téhéran à très haut niveau et qu'elles vont se poursuivre dans les jours à venir. Cela fait 10 ans que la peine de mort n'a jamais été autant appliquée dans le monde. Sombre conclusion d'un rapport annuel d'Amnesty International. En 2024, l'ONG dénombre 1518 exécutions et condamnés, 32% donc de plus que l'année précédente.
Paracoup, 106.1 FM.
Afrique Économie au Bénin ce matin, filature, tricotage, teinture. Le premier producteur de coton sur le continent est capable de proposer des vêtements 100% made in Bénin. Cela se passe dans une vaste zone industrielle à une quarantaine de kilomètres de Cotonou. Le nom de cette zone, la Jedziz, on y fabrique donc du textile en partant du coton brut et donc jusqu'au produit fini. Bruno Faure.
Les machines à coudre tournent à plein régime. L'atelier est au cœur de la zone industrielle de Glodjibé, GDIZ. Des centaines de jeunes hommes et de jeunes femmes au travail.
Moi, c'est Claudia Fouébé-Kiki. Je suis sur la ligne de polo. On court des habits Lacoste Donc je suis sur la première opération, c'est-à-dire je coule les épaules. Après ça, il y a d'autres qui coulent les manches jusqu'à la finition.
Une course de relais pour fabriquer chemises, t-shirts, toutes sortes de vêtements commandés par de grandes marques internationales.
Qui habillent, ils ont l'habitude de commander en Chine et autres, mais actuellement, maintenant, ils commandent chez nous.
Qui habillent The Children's Place ou encore Gémeaux, à Dangpo, Déborah Christa, chargée de marketing et merchandising.
Nous recevons les commandes des bailleurs en fonction de leurs documents qu'ils nous présentent, que nous appelons le Technical Pack. Nous suivons à la lettre ce qu'ils nous demandent. Le tissu qu'ils veulent, les boutons qu'ils veulent, les fils à utiliser. Donc dès que moi je reçois le document, je viens voir le magasinier, je lui soumets ce que je veux.
En amont de la couture, plusieurs ateliers dans ce parc textile qui tisse sa toile d'année en année. Dans un autre bâtiment, de la fibre de coton brut transformée en fil. Valère Undete, superviseur de production.
À chaque niveau, dès la réception du coton de chez le graineur, l'équipe de qualité va déjà prélever des échantillons pour vérifier exactement c'est quoi le grade, c'est quoi la couleur. À chaque étape, nous avons des éléments qui vérifient avant qu'on ne puisse continuer la transformation.
Produire du textile 100% made in Bénin, c'est l'objectif de la société Bénin Textile qui veut concurrencer les géants asiatiques. Son directeur général adjoint, Yemi Arouamenou.
En termes de coûts, on se retrouve à peu près à égalité avec nos concurrents asiatiques, dans une marge de 5 à 10%. Ceci dit, le gros avantage est le gain de temps par rapport au shipping jusqu'au marché final. Le point de départ du Bénin nous offre une position stratégique pour atteindre le marché européen ou le marché américain.
Malgré le nouveau climat commercial mondial, le Bénin, qui ne transforme aujourd'hui que 12% de sa production cotonnière, cherche de nouveaux marchés. Il espère, grâce à sa zone économique spéciale et de nouveaux investisseurs, générer une valeur marchande de 12 à 14 milliards de dollars chaque année.
Afrique Économie, signé donc Bruno Faure et à réécouter sur RFI Pure Radio. Nous en parlions il y a un instant. Donald Trump n'épargne pas l'Afrique dans sa guerre commerciale. Dès demain, les produits africains exportés vers les États-Unis vont se voir imposer des taxes supplémentaires allant de 10 à 50% selon les pays. Comme le secteur des spiritueux, de l'automobile ou de l'acier, le secteur du diamant est lui aussi touché par les taxes douanières américaines. Plus de 80% des diamants bruts sont aujourd'hui polis en Inde, un pays qui est donc soumis à de nouvelles taxes. Marie-Pierre Olfan.
Les produits indiens sont taxés à 27% pour entrer sur le sol américain et c'est donc aussi le cas des diamants, même s'ils ne sont que taillés en Inde. Au regard des douanes américaines, c'est une transformation suffisante pour que l'origine du produit devienne en quelque sorte indienne. C'est aux États-Unis que sont aussi analysées et certifiées une partie des pierres qui ont été polies en Inde et qui seront vendues ailleurs plus tard. Le laboratoire le plus réputé en la matière se trouve dans le pays, mais comme les nouvelles annonces ne sont cependant pas très clair, son dirigeant a écrit la semaine dernière aux diamantaires étrangers pour leur conseiller de ne plus envoyer de pierres à analyser en attendant que la situation se décante. En Inde, ce sont potentiellement des milliers d'emplois qui sont menacés. Le diamant est le troisième produit d'exportation vers les États-Unis. Si la demande américaine se met à baisser, ce sera un énorme coup dur pour le pays. À court terme, les pertes d'emplois sont inévitables, estime le président de l'Indian Diamond Institute, basé à Surat, la capitale indienne de cette industrie, une ville où a été inaugurée une bourse aux diamants en 2023. L'Inde espère d'ailleurs neutraliser ces nouvelles taxes. Les autorités n'ont pour l'instant pas pris de mesures de rétorsion. Elles privilégient la négociation d'un accord commercial bilatéral, accord qui pourrait être conclu d'ici quelques mois. L'Inde s'inquiète, mais les conséquences pourraient aller bien au-delà. À tous les étages, c'est l'incertitude. Hier, un opérateur minier annoncé l'annulation d'une vente aux enchères, annulation jusqu'à nouvel ordre. Les États-Unis achètent la moitié des diamants vendus dans le monde et c'est grâce à eux que la consommation avait redécollé avant les fêtes de Noël. Si les Américains s'offrent moins de pierres précieuses parce qu'elles sont plus chères, cela aura forcément des conséquences. Les miniers du Botswana ou de Namibie par exemple vont peut-être lever le pied et moins produire pour ne pas inonder le marché et risquer de faire baisser les prix. Aucun pays pays n'a aujourd'hui la capacité de compenser une éventuelle paralysie du marché américain.
Marie-Pierre Olfan pour votre chronique des matières premières tous les matins sur RFI et quand vous le voulez sur notre site et notre application. Pour refermer cette édition d'Afrique Matin, place à présent à votre rendez-vous consacré à l'actualité française dans l'océan Indien. Nous appelons nos confrères d'Outre-mer, la première édition présentée ce matin par Serge Massot. Et à la une, le déplacement à la Réunion du ministre français des Outre-mer. Bonjour Serge.
Bonjour, le ministre des Outre-mer Manuel Valls est à la Réunion. Il a lancé hier la campagne de vaccination contre le chikungunya. Hier matin, il a rencontré une délégation d'agriculteurs frappés par le cyclone Garance. Le ministre a confirmé que les aides promises seraient versées d'ici 3 mois. 40% des dommages subis par la filière canne seront couverts. Mais le ministre prévient, il s'agit d'une aide exceptionnelle. Jonathan Evrard de Réunion La Première.
Concernant les indemnisations des dégâts du cyclone dans les exploitations, toujours pas de montant précis, mais un engagement de l'État qui rassure le président de la Chambre d'agriculture, Olivier Fontaine.
Maintenant, c'est pas encore finalisé. En tout cas, il y a des choses positives, il faut le dire. Les indemnisations rapides dans les 3 mois, une enveloppe exceptionnelle pour la canne.
La bonne nouvelle pour les planteurs également, c'est donc cette enveloppe exceptionnelle promise par Manuel Valls, entre 387 et 765 euros par hectare en fonction des dégâts, des montants inférieurs aux besoins, selon Pierre-Emmanuel Tonon, le vice-président de l'interprofession pour la filière canne-sucre, qui estime malgré tout que le signal est positif.
Le compte n'y est pas effectivement, parce qu'on était plutôt sur un calcul de ce coût allé entre 1100 et 1900 euros hectare. Mais comme là, il nous a bien dit, il prend en compte 40% du surcoût. C'est pour ça que j'ai dit qu'on espère que le département pourra complémenter cette mesure et que le ministre de l'Agriculture, lors de sa venue, pourra elle aussi apporter un soutien supplémentaire pour qu'on passe ce cap de 2025 tranquillement.
Une rencontre globalement satisfaisante donc pour les agriculteurs et les représentants de la filière canne, même si désormais tous attendent impatiemment la venue d'Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, pour plus de précisions et de garanties sur ces nouveaux engagements de l'État.
Toujours à la Réunion, s'est ouvert hier soir la 29e conférence des RUP, ces régions ultra-périphériques de l'Union européenne, dont les 5 départements d'outre-mer, Madère ou encore les îles Canaries. Objectif, élaborer une stratégie commune pour défendre la place des RUP dans le budget européen. Le réunionnais Younous Omarji, vice-président du Parlement européen au micro de Lise Dumont.
Mais c'est excessivement important, parce que considérer que nous sommes dans une Union européenne avec 27 pays, tous les pays considèrent que leurs problèmes sont prioritaires. Et cette conférence, c'est un moment qui est crucial. Nous arrivons maintenant au moment d'un certain nombre d'arbitrages sur les grandes politiques qui sont très importantes pour nous dans les Outre-mer. La politique agricole commune, de cohésion, globalement le budget de l'Union. Et si les RUP ne sont pas à l'offensive, on risque d'être les parents pauvres de ces nouveaux arbitrages. Les RUP demeure une priorité et personnellement, au nom de la présidente du Parlement européen, je vais également appuyer dans ce sens.
Et puis la cocaïne déferle sur l'île de la Réunion. L'an dernier, les douaniers de l'île ont saisi 50 kilos de cocaïne. C'est 10 fois plus qu'il y a 5 ans. Hervé Leray, inspecteur régional des douanes.
On a différentes saisies réalisées depuis 2-3 ans maintenant. Soit la personne peut l'avoir à corps, c'est-à-dire scotché sur elle directement au niveau de l'abdomen, au niveau des jambes. Soit en ce qu'on appelle incorporé, c'est-à-dire à l'intérieur de l'organisme. On appelle ça dans ce cas, les personnes ingèrent des ovules, généralement de la cocaïne. Soit en inséré également, ou dans le vagin, ou dans le rectum. Ou soit tout simplement dans la valise. Voilà. Avec cache, moyen caché ou sans moyen caché. Donc en vrac dans le bagage, ou alors par exemple dans un double fond de la valise. Il n'y a pas de profil type des mules, malheureusement, ça serait trop simple. Voilà, donc ça réside en fait dans l'observation des collègues, souvent.
Des propos recueillis par Laura Philippon de Réunion La Première. Bonne journée sur RFI.
Serge Massot pour l'actualité française dans l'océan Indien. Et c'est ainsi que se referme cette première édition d'Afrique Midi, d'Afrique Matin, pardon, réalisée par Olivier Roux. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité africaine, c'est à 5h30 TU. Mais avant ça, comme toutes les heures sur RFI, un nouveau journal, c'est dans moins d'une minute.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Imagerie médicale, diagnostic, suivi et traitement des maladies.
Mercredi.
Chikungunya, l'île de la Réunion frappée par une épidémie.
contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Le prix théâtre RFI.
Je suis Gad Ben Salem, lauréat du prix RFI Théâtre 2024. Ça a été une expérience enrichissante à tous les niveaux. Ce prix est un véritable tremplin. C'est à votre tour.
Si comme Gad Ben Salem, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, envoyez vos textes, drames ou comédies avant le samedi 3 mai minuit à prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs, chères autrices, le prix RFI Théâtre 2025 peut être vous.